Les cours du Collège de France, Léa Huppy, chère l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'idée de liberté qui anime mon approche du socialisme moral. La liberté est récemment devenue un embarras pour la gauche. Elle est maintenant davantage appropriée par la droite, notamment dans sa défense du droit des individus à résister à toute interférence de l'autorité. Qu'est-ce qui, pourtant, ne marche pas dans cette conception de la liberté comme non-interférence? Et pourquoi est-il important de retrouver une autre conception, que j'appelle la conception morale de la liberté? On peut commencer par réfléchir à l'expérience de la liberté. Alors prenons l'exemple de la liberté de circulation. Je suis née en Albanie, sous le communisme, et je me souviens très bien la première fois où j'ai voyagé en Occident avec ma grand-mère. J'avais environ 11 ans. C'était la première fois que les Albanais étaient autorisés à voyager hors de leur État. Jusqu'au moment où le communisme a pris fin, on nous avait dit que nous ne pouvions pas voyager parce que notre État ne nous le permettait pas, parce que nous n'avions pas de passeport. Puis, presque d'un jour au lendemain, le mur de Berlin est tombé, la guerre froide a pris fin et le socialisme d'État a été abandonné. Alors, presque d'un jour au lendemain, l'État albanais a commencé à délivrer des passeports à tout le monde, pas seulement aux membres du Parti communiste. Mais là, nous avons découvert que le passeport ne suffisait pas. Il fallait aussi un visa qui ne relevait pas de la responsabilité de l'Albanie, mais de la décision de notre État. Alors, brutalement, tous les obstacles à la liberté de circulation que nous avions toujours intériorisés en nous disant que nous ne pouvions pas voyager parce que nous n'y étions pas autorisés par notre État, eh bien, ces obstacles ont été externalisés. Ils sont devenus une décision des autres. Et nous avons découvert que nous ne pouvions toujours pas voyager. Cette fois, parce que notre État ne nous autorisait pas à le faire. Alors je me demande, si la liberté de circulation a de l'importance, elle a aussi bien pour l'émigration que pour l'immigration, aussi bien pour quitter son pays que pour entrer dans un autre pays. Et si on me dit que je suis libre de quitter, par exemple, cette salle de cours, mais que je sors dans le couloir et je constate que toutes les portes sont verrouillées, je vous demande, suis-je libre de me déplacer? Non. Alors, au moment où enfin les États socialistes de l'Est ne tiraient plus sur leurs citoyens aux frontières, c'était les États capitalistes occidentaux qui ont commencé à envoyer des bateaux patrouiller sur leur mer. Et les migrants continuaient à mourir. Seule la couleur des uniformes avait changé. Seuls les drapeaux sur lesquels les crimes étaient perpétrés avaient changé. Et je vous parle de la migration parce qu'il s'agit d'un enjeu particulièrement saillant dans les démocraties libérales contemporaines. Elle constitue un excellent prisme pour examiner ce qui ne va pas dans les conceptions dominantes de la liberté. Lorsque la liberté est accordée à certains, mais refusée aux autres. Mais elle permet aussi d'examiner plus largement le rapport entre les dimensions morales et politiques de la liberté. Et c'est un point sur lequel je reviendrai. Nous sommes aujourd'hui si étroitement intégrés les uns aux autres que les effets d'une injustice subie dans une partie du monde sont ressentis partout. La migration n'en est qu'une conséquence. Ce qui fait que l'idée selon laquelle nous pourrions simplement fermer les frontières ou réaliser la liberté en un seul lieu, dans un seul État ou dans un seul groupe d'États, pour un seul groupe de personnes, est une idée incohérente de la liberté. Nous devons penser la liberté comme liberté globale et concevoir la structure de nos relations politiques, économiques et sociales en l'étendant globalement. Donc, la crise de la démocratie que nous traversons a mis en lumière une tension curieuse. D'un côté, elle a remis en question les théories de la mondialisation qui diagnostiquaient et souvent prônaient la fin de l'État et la mort de la souveraineté nationale. De l'autre côté, elle a montré l'écart entre la réalité politique contemporaine et la seule conception de la souveraineté qui rende l'autorité politique moralement attrayante et démocratiquement légitime, c'est-à-dire l'idée de souveraineté populaire, c'est-à-dire l'idée selon laquelle nous sommes les auteurs égaux des lois auxquelles nous sommes tenus d'obéir. Donc, l'idéal moderne de la démocratie repose sur une conception très particulière de la légitimation. C'est une conception distincte de celle qui dominait dans le monde antique. À l'Antiquité, la communauté était la source des normes morales. Dans la période médiévale, au début de l'époque moderne, on faisait appel au droit divin des rois. Le concept moderne de légitimation est lié à la liberté. Il vise à expliquer pourquoi des individus nés libres et égaux acceptent de sacrifier la liberté sans loi de l'état de nature en échangeant de la liberté acquise dans l'association avec les autres, au sein d'une condition civile régie par les lois. Alors, cette idée de légitimation démocratique explique aussi pourquoi, dans des circonstances d'urgence, l'État, et lui seul, revendique l'autorité de suspendre ou de restreindre temporairement des libertés fondamentales qu'ils ont normalement dû protéger. Alors, pensez au Covid, la liberté de circulation, la liberté d'association, de participation. La plupart de ces libertés sont en théorie garanties dans des documents juridiques fondateurs des démocraties libérales. Pourtant, la plupart, sinon toutes, ont été suspendues ou restreintes dans le cadre des mesures d'urgence. Celles-ci ont alors été invoquées pour faire face aux différentes crises que nous avons récemment traversées, c'est-à-dire des crises financières, des crises d'urgence sanitaire, des guerres, etc. Alors, les situations d'urgence sont généralement des phénomènes de court terme, mais elles signalent quelque chose d'important à long terme. Grâce à l'urgence, un gouvernement peut créer des précédents pour concentrer le pouvoir entre les mains de quelqu'un. Ça peut être des experts scientifiques, des agences de contrôle des données, des élites économiques et politiques qui continueront à s'appuyer sur l'autorité de l'État pour exiger l'obéissance de tous, tout en offrant protection qu'à certains. Dès lors, un engagement véritable sur la question de la liberté demande de repenser son rapport aux institutions sociales et politiques dans le monde contemporain. Et alors, pour cela, il faut revisiter la relation entre libéralisme et capitalisme et penser ce couple comme un phénomène historique avec toutes les promesses et tous les échecs qu'ils ont comportés. Et ce n'est pas une tâche facile, car le libéralisme est une vaste famille de doctrines. Le libéralisme n'est pas non plus la même chose que le capitalisme. Le capitalisme est un ensemble de relations politiques et économiques. Le libéralisme, au contraire, c'est une relation d'idées. Alors, le capitalisme, il ne serait pas ce qu'il est sans le soutien des théories libérales. Mais toutes les théories libérales ne soutiennent pas le capitalisme. Les libéraux progressistes, de John Stuart Mill à John Rawls, ont été critiques à l'égard du capitalisme. Ils ont souvent défendu des formes alternatives d'intégration d'organisation sociale, telles que, dans le cas de John Rawls, la démocratie à propriété largement repatriée ou le socialisme libéral. Donc cela place le libéralisme dans une position curieuse. Dans la mesure où il accompagne le capitalisme, il apparaît comme un phénomène historique. Dans la mesure où il s'en écarte, ou bien le valide, il apparaît comme un idéal social. Le libéralisme possède une idée centrale, c'est la liberté. Il possède aussi une promesse centrale, la liberté vis-à-vis de l'autorité. Alors, pour les libéraux progressistes, la question est la suivante. L'échec du capitalisme doit-il être considéré comme un échec du libéralisme? Et si le libéralisme doit être compris comme un idéal plutôt que comme la réalité dans laquelle nous vivons, dans quelle mesure dans l'histoire les rencontres entre capitalisme, socialisme, fascisme, démocratie, théocratie et populisme remettent-elles en cause le projet libéral dans son ensemble? Alors, à mon avis, le libéralisme ne peut pas entraîner la liberté à l'intérieur du capitalisme. Et en effet, leur concomitance au cours de l'histoire a produit des conséquences négatives spécifiques. Elles sont différentes du danger du despotisme ou de l'intolérance que le libéralisme combat, mais elles sont tout aussi destructrices. Et les socialistes, ils aiment expliquer ce qu'ils appellent les pathologies libérales capitalistes par les conditions matérielles dans lesquelles les idées se développent. Mais même avant la critique socialiste, les contradictions internes au projet était déjà perceptible pour les observateurs les plus perspicaces du libéralisme dans son rencontre avec le capitalisme. Les origines intellectuelles du projet, on les trouve dans les guerres de religion du XVIe et XVIIe siècle, et dans la combinaison de trois éléments. Une anthropologie morale, une théorie économique et une théorie politique. Et ce sont ces trois éléments qui ont permis aux penseurs libéraux d'articuler une conception originale du pouvoir et de la manière dont il devait être exercé. Pourtant, sur ces trois plans, anthropologique, moral, économique et politique, les premiers penseurs qui ont critiqué le libéralisme ont déjà mis en évidence des contradictions qui réduisaient les promesses libérales à des simples promesses. Prenons l'anthropologie du libéralisme. Beaucoup ont salué la libération des individus du joug de l'autorité et célébré l'émergence d'un nouvel idéal. C'était l'idéal de la société civile. Cet idéal reposait sur le rôle du doux commerce, comme l'appelait Montesquieu, et sur la contribution globale du commerce à la prospérité matérielle et aux relations pacifiques entre les êtres humains. Mais parallèlement à la célébration de la centralité de l'individu, l'idée selon laquelle les vices privés deviennent des vertus publiques, on a vu circuler également, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, d'importantes critiques de la société commerciale, qui énumérait les dispositions psychologiques destructrices que ce projet portait. C'était Rousseau qui nous parlait de ça. Il parlait de l'égoïsme, de l'avidité, de l'envie, la méfiance, la compétition pour le bien inessentiel ou le luxe, l'exagération des apparences, le désir d'impressionner, le besoin de reconnaissance extérieure, la rivalité, l'indifférence au sort des plus vulnérables et les comportements de l'exploitation. Alors, passons maintenant au rapport entre la théorie économique et la théorie de l'État. Comme de nombreux critiques l'avaient déjà observé, c'était aussi avant Marx, avant la critique socialiste, si les libéraux prenaient la société commerciale, ils avaient quand même besoin de l'État pour en garantir le fonctionnement. Et alors, les libéraux se sont attribués l'invention des droits de l'homme et de l'idéal universel de la citoyenneté, célébré lors de la Révolution française et de la Révolution américaine. Ils se sont également attribués la fin de la représentation corporative et la destruction des structures d'autorité telles que la noblesse et l'Église. D'un côté, l'État était nécessaire pour garantir la propriété privée et les types de droits et d'obligations qui permettent à la société commerciale de fonctionner. De l'autre côté, comme de nombreux libéraux l'avaient déjà noté, l'État dépend de la fiscalité et de la contribution des plus riches à ses finances afin de préserver l'ordre et la stabilité. Or, selon l'ampleur de la fiscalité et ses mesures de redistribution nécessaires pour empêcher que les inégalités ne menacent la stabilité, ces politiques peuvent aussi devenir si conflictuelles qu'elles vont finir par détruire l'idéal universel de solidarité civique. Et c'est là que les anciennes divisions de classe et de statut vont réapparaître, juste sous une forme plus moderne. Alors, pour faire face à cette menace, l'État externalise une partie de ses problèmes vers le système international de crédit et de dette, qui parvient généralement à colmater les inégalités internes, mais au prix d'une anarchie globale. Et cela nous conduit à un troisième souci, qui est aussi propre au libéralisme et que les libéraux aussi soulignaient. Les libéraux classiques cherchaient à limiter le rôle de l'État tout en célébrant la société civile comme une structure spontanée et non hiérarchique où tous seraient égaux. Cette célébration de la société civile faisait partie d'une théorie des stades de l'histoire défendue par de nombreux proto-libéraux comme Adam Smith, Adam Ferguson et John Miller. Pour Adam Smith et des autres, l'histoire est fondamentalement l'histoire des relations matérielles telles qu'elles s'articulent à travers différents systèmes de production, la chasse-cueillette, le pastoralisme, l'agriculture, et qui culmine dans la supériorité de la société commerciale. Mais un tel récit de progrès, combiné aux théories des stades historiques sur lesquels il repose, est intrinsèquement hiérarchique. Le prix à payer pour l'espoir libéral dans le triomphe de la société civile a été la condamnation d'autres formes de vie, par exemple de la chasse-cueillette ou l'agriculture de substance ou des autres stades comme des stades inférieurs du développement historique. Et là encore, on voit comment le libéralisme produit son propre danger, une autre pathologie, et c'est le colonialisme. Et là aussi, on voit qu'il ne s'agit pas d'un dommage collatéral, ni d'une application incohérente des normes libérales. Par exemple, défendre certains droits et libertés pour des populations d'un côté du monde, tout en refusant la même chose à d'autres. Il s'agit d'un élément central de la mission libérale, consistant à apporter les vertus de la société civile à des populations jugées incapables de les réaliser par elles-mêmes. Alors, aujourd'hui, les libéraux, ils écartent souvent l'histoire du colonialisme comme si elle n'avait rien à voir avec l'application des idées du libéralisme à l'économie capitaliste. Mais le danger du colonialisme et du néocolonialisme n'est pas seulement un sous-produit regrettable. Le néocolonialisme s'exerce aujourd'hui sous la forme de dépendance à la dette ou de subordination à des institutions internationales préemptées par des pays libéraux occidentaux ou encore à des interventions humanitaires. Eh bien, ça aussi, ce n'est pas un dommage collatéral malheureux du libéralisme. Il s'agit du résultat d'une théorie de l'histoire dans laquelle la société libérale capitaliste constitue le stade final d'un processus visant à libérer des peuples prétendus arriérés de leur stupidité et de leur oppression. Donc, tous ces éléments renvoient à une question plus générale concernant la compréhension libérale de la liberté et son rapport au pouvoir. Les libéraux cherchaient à limiter le pouvoir de l'État, des autorités religieuses et de toute forme d'organisation collective menaçant la liberté individuelle. Mais dans ces efforts pour disperser ce pouvoir, leur projet engendre ses propres structures de pouvoir, ses propres dangers, ses propres formes de non-liberté. Et les structures de pouvoir libérales capitalistes sont anonymes plutôt que personnelles, spontanées plutôt que planifiées. Et comme on l'a vu, les dispositions psychologiques qui les consolident engendrent l'égoïsme et l'indifférence plutôt que l'agression ouverte. Mais elles sont aussi inquiétantes. Ceci dit, je pense que les pathologies de la liberté dans le capitalisme ne sont pas seulement le résultat d'une mauvaise foi idéologique. Elles reflètent une ambiguïté structurelle réelle dans la conception de la liberté. Une ambiguïté que je voudrais clarifier dans la seconde partie de mon cours aujourd'hui. Alors, comment devons-nous comprendre la liberté? Je pense que la liberté, correctement comprise, possède deux dimensions distinctes. Une dimension interne qui concerne les présupposés de la volonté morale. Et une dimension externe qui concerne les conditions dans lesquelles les individus interagissent les uns avec les autres dans un monde partagé. Et ma thèse est que la séparation systématique de ces dimensions, qui a été de manière générale la tendance dominante aussi bien dans la philosophie politique libérale que dans la philosophie politique marxiste, engendre des distorsions à la fois philosophiques et politiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par cette séparation entre les dimensions externes et internes de la liberté? La tradition de la philosophie politique libérale a eu tendance à traiter la liberté principalement comme une absence d'interférence, comme la protection d'une sphère privée dans laquelle l'individu peut poursuivre ses propres fins sans coercition de la part d'autrui. Les conditions de cette liberté externe, droit, protection juridique, état de droit, sont comprises comme des préconditions de l'autoréalisation individuelle. Et la tradition marxiste, dans ses formulations les plus courantes, a eu la tendance de penser l'envers, de penser le contraire. Dans la pensée marxiste, jusqu'à présent, ce qui importe, ce n'est pas la liberté formelle garantie par les institutions juridiques, mais les conditions matérielles qui rendent possible une véritable autodétermination. Alors, on peut prendre l'exemple typique, le travailleur qui est formellement libre de vendre sa force travail n'est pas du tout libre si l'alternative est la famine, par exemple. Ou bien le citoyen qui est formellement libre de voter n'est pas du tout libre si les conditions économiques de sa vie sont déterminées par des forces entièrement hors de son contrôle. Et cette critique, elle est bien sûr puissante et à bien des égards aussi plausible, mais dans son empressement à dévoiler les mystifications de la liberté libérale formelle, cette critique, elle est parfois allée trop loin, elle rejetait purement et simplement la dimension morale de la liberté en la considérant comme une construction idéologique de la bourgeoisie. Et elle réduisait la question de la volonté morale à une question de circonstances matérielles. C'est-à-dire, elle se privait des ressources nécessaires pour déterminer précisément ce qui est injuste dans l'exploitation, dans la domination, dans la tromperie idéologique et dans toute une série d'autres phénomènes où, au-delà du simple fait qu'ils empêchent les individus de satisfaire leurs besoins. Ce que je veux défendre aujourd'hui, c'est que ces deux conceptions réductrices sont erronées. Et c'est qu'une conception philosophiquement adéquate de la liberté doit faire, c'est de faire coexister simultanément à la fois la dimension interne de la liberté à la dimension externe de la liberté. Et pour comprendre comment faire, il faut, selon moi, examiner à la fois la structure de la volonté morale, les conditions de son exercice et les arrangements institutionnels qui exigeraient un ordre social véritablement libre. Alors, on va commencer par la dimension interne de la liberté et après on va traiter la dimension externe. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue interne? Dire qu'un individu est libre au sens moral. La réponse intuitive, c'est que la liberté consiste à faire ce qu'on veut. Mais cette réponse, elle présente des limites évidentes, parce que les individus peuvent vouloir des choses qui sont le produit de la manipulation, de l'addiction, de l'oppression ou d'une distorsion systématique de leur capacité mentale. Alors, pensez par exemple à un individu qui a été si profondément conditionné par une relation abusive qu'il peut en venir à désirer sincèrement sa propre subordination. Cet individu-là n'est pas libre simplement parce qu'il agit conformément à ce désir de subordination. De même, un utilisateur des réseaux sociaux dont les désirs sont façonnés par des algorithmes optimisés pour maximiser son engagement, ne gagne pas en liberté du simple fait de faire défiler son fil d'actualité en fonction de ce qu'il est conduit à faire. Alors, l'insuffisance de ce modèle immédiat de la satisfaction des désirs a conduit certains philosophes à adopter des conceptions de la liberté fondées sur la satisfaction des préférences mais enrichi par des idéalisations, en se disant, par exemple, qu'est-ce que l'agent voudrait s'il était pleinement informé, ou s'il raisonnait correctement, ou s'il était libéré de ses influences déformantes. Alors, ces conceptions-là, elles sont plus sophistiquées, mais elles rencontrent une autre difficulté. Elles tendent à spécifier le contenu de ce que l'agent devrait vouloir, plutôt que se concentrer sur la structure de la prise de décision morale. Et là aussi, elles conduisent à une forme de paternalisme. C'est un paternalisme quant à ce que nous devrions réellement vouloir. Ma position, à la suite de Kant, est que la clé pour comprendre cette liberté interne ne réside pas dans le contenu de la volonté, mais dans sa forme, c'est-à-dire dans la reconstruction des présupposés rationnels de l'action morale. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Un individu est, selon cette conception, intérieurement libre lorsqu'il agit selon des principes qu'il a lui-même déterminé par la raison, plutôt que selon des principes qui lui sont imposés par son envie du moment ou par une autorité extérieure. Et nous possédons une compréhension intuitive de la structure de la volonté morale, au-delà du contenu, car nous savons faire la distinction entre ce que nous faisons par habitude ou par goût et ce que nous estimons devoir faire en tant qu'acte de détermination rationnelle de soi. Lorsque je me dis « je dois faire ceci » ou « je ne dois pas faire cela », je me rapporte à une norme. Je me rapporte à une norme qui fait implicitement appel à un conseil de devoir que nous présupposons toujours lorsque nous prenons des décisions morales. Toute décision morale implique une forme particulière de vouloir. Alors la question est la suivante. Lorsque je prends une décision morale, qu'est-ce que je veux exactement? Qu'est-ce que fait que ma volonté est bonne, c'est-à-dire juste au sens moral? Lors du cours précédent, j'ai introduit trois maximes, les trois maximes des Lumières. Penser par soi, penser par soi-même, penser du point de vue de tous les autres et toujours penser de manière cohérente. Et j'ai soutenu qu'elles ne décrivent pas simplement un programme épistémique de la pensée, mais aussi un programme moral et politique. Alors, maintenant, on va voir, je voudrais expliquer en quoi ces maximes sont liées à la question de la liberté et à celle de la volonté juste, comprise à la fois moralement et politiquement. Donc, comment ces maximes des Lumières sont liées à la question de la volonté morale, à la question de l'autorité morale. Et mon argument est que les trois maximes des Lumières que nous avons examinées la dernière fois, quand elles sont prises au sérieux, produisent deux résultats. Le premier, c'est qu'elles nous donnent une conception plus précise de la manière dont la liberté s'exprime dans sa dimension interne. Et le deuxième, c'est qu'elles produisent une conception plus précise des institutions sociales et politiques lorsque nous nous tournons vers les conditions externes de sa réalisation. Et ce n'est qu'avec ces deux dimensions maintenues ensemble que nous pouvons comprendre comment le capitalisme s'écarte en fait de l'idée d'un ordre social fondé sur la liberté. Et cette dernière partie, ce n'est pas quelque chose que je pourrais développer aujourd'hui, mais j'espère qu'une fois que les éléments de la théorie de la liberté sont en place, nous pourrons y revenir dans les prochains cours pour voir exactement comment le capitalisme sape la liberté entendue de cette façon-là. Alors revenons à la première maxime des Lumières. Penser par soi-même. Cette maxime concerne la forme de l'action moralement libre. Elle pose la question suivante. Dans quelles conditions une action peut-elle être dite exprimer une volonté juste? Autrement dit, une volonté qui se dirige elle-même au lieu d'être guidée par la pression de l'envie du moment ou par des circonstances extérieures ou par l'intériorisation d'une autorité extérieure. La réponse tient dans le fait de pouvoir être universalisé. Donc, une maxime, c'est le principe subjectif selon lequel j'agis, c'est ce qu'on appelle une maxime, n'exprime une véritable autodétermination, c'est-à-dire penser par soi-même, que si elle peut être universalisée. Dans sa théorie morale, Kant appelle cela la formule de la loi universelle. C'est-à-dire, Kant nous dit, agis uniquement d'après la maxime, le principe subjectif de l'action, grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Et Kant, il nous illustre cette maxime, ce principe, par l'exemple du respect des promesses. Alors il nous dit, supposons que je me sens dans le besoin d'argent, et que j'envisage d'en emprunter sans aucune intention de le rembourser. Ce principe d'intérêt personnel peut parfaitement être cohérent avec mon avantage individuel. Mais puis-je le vouloir comme une loi universelle? Puis-je vouloir que chacun, lorsqu'il en est dans le besoin, fasse des promesses qu'il n'a aucune intention de tenir? Et Kant soutient que l'universalisation de cette maxime rend impossible la pratique même de la promesse. Si personne ne pouvait être digne de confiance, l'idée de la promesse s'effondrerait, et avec elle la possibilité même de l'action que je tente d'accomplir. Alors, il faut s'arrêter un peu sur ce type d'impossibilité, car ce point est fréquemment mal compris. Certains critiques objectent qu'un monde dans lequel personne ne tient ses promesses est parfaitement imaginable. Ce serait simplement un monde mauvais, mais ce n'est pas un monde impossible. Mais alors, cette objection, elle manque sa cible. Ce qui devient impossible dans un tel monde n'est pas le monde physique lui-même, ni même la vie humaine en tant que telle, mais le monde moral. Donc les individus pourraient survivre, mais la moralité serait détruite. Le but de l'universalisation n'est pas de tester une incohérence logique au sens étroit, mais de révéler si une maxime, si ce principe subjectif de l'action est compatible avec les conditions d'existence d'une communauté morale. Et donc, il s'agit d'un type d'absurdité qui est un type d'absurdité différent de l'absurdité logique. C'est un monde qu'on peut comprendre du point de vue logique, mais c'est une absurdité qui concerne les relations humaines et les conditions dans lesquelles une vie morale est impossible. Pour donner un autre exemple, lorsqu'une entreprise assure à ses utilisateurs que leurs données seront protégées tout en ayant l'intention de les vendre à des fins lucratives, alors là aussi, elle agit d'une maxime, selon une maxime qu'on ne pourrait pas rationnellement vouloir universaliser, universelle. Car une tromperie universelle rendrait ce type d'assurance dépourvu de sens. Et le caractère mauvais de cette action réside dans la tentative de s'exempter du contrôle rationnel même sur lequel elle compte pour que les autres suspendent leur méfiance. Donc, agir moralement, selon la formule de la loi universelle, consiste donc à penser en termes universalisables, c'est-à-dire à soumettre ses propres principes au même test universel que l'on attend que des autres qu'ils acceptent. Donc, la première maxime des Lumières, penser par soi-même, exige ce type d'examen de principe. Pas la simple affirmation de l'indépendance à l'égard des sources extérieures, mais la capacité d'agir selon des principes subjectifs qui peuvent être universalisés. Alors, passons maintenant à la deuxième maxime des Lumières. Penser en se mettant à la place de tous les autres. Ce principe déplace l'attention de la forme de l'action vers le contenu de l'action, c'est-à-dire vers la position de l'individu à l'égard des autres personnes. Penser en mettant à la place de tous les autres, c'est réfléchir à la capacité d'autodétermination morale que chaque personne rationnelle possède, indépendamment de toute caractéristique qui lui est associée, c'est-à-dire indépendamment de son origine, de son apparence ou de son rôle social. Cette capacité d'autodétermination rationnelle, morale, est ce qui confère aux êtres humains une valeur inhérente, une dignité d'un statut inconditionnel. Il s'ensuit que se mettre à la place des autres consiste à reconnaître leur humanité. La valeur inhérente qu'ils possèdent simplement en vertu de leur capacité à se donner et à poursuivre des fins morales. Les personnes qui possèdent cette capacité ne peuvent jamais être traitées simplement comme des moyens, comme de simples instruments pour la réalisation des fins d'autrui. Parce que traiter les autres uniquement comme des moyens, c'est les déhumaniser. C'est violer leurs valeurs inconditionnelles. Une entreprise qui verse à ses travailleurs des salaires extrêmement bas dans des conditions dangereuses et qui les traite comme des éléments interchangeables de la production viole ce principe. Elle considère les personnes uniquement en termes de coûts et de rendements plutôt que donc des personnes poursuivant leurs propres fins. Donc, l'exploitation est de manière directe incompatible avec ce principe. Traiter autrui comme une simple source de profit ou de plaisir, c'est saper l'humanité inhérente à cette personne. Alors là, on voit que la deuxième maxime des Lumières, penser du point de vue de tous les autres, débouche ainsi sur un impératif moral centré sur notre humanité partagée. C'est-à-dire prendre les autres êtres humains au sérieux, c'est reconnaître leur valeur inconditionnelle et laisser cette reconnaissance limiter ce qu'on s'autorise à faire. Venons à la troisième maxime des Lumières. Troisième maxime, vous vous souvenez, toujours penser de manière cohérente. Cette troisième maxime nous demande d'aller au-delà de la relation entre un acteur et un autre et de concevoir une communauté d'acteurs dont chacun possède une valeur inconditionnelle, vous avez vu dans la deuxième maxime, et chacun agit selon des principes universalisables, donc retour à la première maxime. Comme membre d'un ordre moral partagé, guidé par une exigence rationnelle de cohérence. Alors cette reconnaissance de la troisième maxime fonde ce que j'appellerais la structure relationnelle de la liberté. C'est-à-dire que la liberté est enracinée dans notre volonté, mais la volonté est toujours constituée en relation avec les autres. Il s'agit de reconnaître que les autres sont des fins en soi et de s'engager à agir selon des principes qui respectent cette capacité humaine d'autodétermination. Et dans cette communauté humaine, la loi morale n'est pas une contrainte imposée par l'extérieur, mais l'expression de l'autolégislation collective de tous les membres. Donc chaque personne est à la fois législateur des principes qui gouvernent la communauté et destinataire de ces mêmes principes tels qu'ils sont appliqués par les autres. Donc, c'est cela la troisième maxime des Lumières, penser de manière cohérente. Elle doit être comprise non seulement à travers la cohérence de la conduite individuelle, pensée par soi-même, ni seulement de manière intersubjective, pensée en se mettant à la place de tous les autres, mais à l'échelle de l'ensemble de la communauté des acteurs rationnels. Donc, vous avez le sujet, l'intersubjectivité et ici la communauté. C'est une exigence d'intégrité qui s'étend non seulement aux délibérations d'un individu, mais aux relations de toute une communauté morale. Et pris ensemble, ces trois principes décrivent ce que j'entends par la dimension interne de la liberté. Ils nous permettent d'élaborer une conception de la liberté comme une propriété de la constitution morale de l'individu. Savoir si l'on agit selon des principes qui sont véritablement les siens, qui reconnaissent l'égale dignité autrui et qui sont intégrés dans un ordre normatif cohérent partagé avec des autres acteurs. Alors ce cadre de la liberté interne que je viens d'esquisser fait face à deux objections. Et elle mérite d'être abordée tout de suite, car y répondre permet de comprendre la transition entre la théorie de la liberté interne et celle de la liberté externe, ou, pour le dire autrement, de la volonté morale à la théorie du droit et de la politique. La première objection est que la conception interne de la liberté serait solipsiste, c'est-à-dire qu'elle reconstruirait des présupposés de la volonté morale en faisant abstraction des conditions matérielles, des circonstances sociales et des institutions politiques. Alors, on nous dit, si l'on peut être libre au sens moral pertinent, indépendamment de la reconnaissance de sa volonté par autrui, de la possession des conditions matérielles nécessaires à une réflexion significative et des institutions sociales dans lesquelles on vit, alors le concept de liberté aurait été si radicalement intériorisé qu'il semble perdre toute la prise critique sur le monde réel. C'est ça la critique, c'est l'objection. Mais cette objection repose sur une mauvaise interprétation du cadre proposé. Les trois principes que j'ai décrits ne sont pas trois éléments indépendants. Ils sont intimement liés d'une manière qui rend difficile une lecture solipsiste. Alors, le premier principe exige déjà que j'adopte un point de vue qui ne soit pas simplement le mien. Le deuxième principe rend ma liberté morale constitutivement dépendante de la reconnaissance de la liberté morale d'autrui, de la dignité d'autrui. Et le troisième principe rend explicite ce qui est déjà implicite, nous l'avons dit dans les deux premiers principes, c'est la volonté morale n'est pas une propriété que les individus possèdent indépendamment de leur relation sociale. C'est une idée de communauté qui est déjà inscrite dans cette idée de liberté. Alors, c'était la première objection. La deuxième objection, c'est le solipsisme. La deuxième objection, c'est que le cadre que je propose de cette analyse de la liberté, elle serait formaliste. C'est-à-dire que les trois principes, aussi étroitement liés soient-ils, resteraient insuffisamment déterminés pour engendrer des devoirs moraux concrets et qu'ils demeuraient au niveau d'abstraction, les mettant à l'abri de tout engagement avec des arrangements sociaux et politiques réels. Alors, selon cette lecture, selon cette objection, le cadre nous dirait d'agir selon des maximes universalisables, de respecter la valeur inconditionnelle d'autrui et de nous concevoir comme membres d'un ordre moral partagé, mais ne dirait rien de ce que cela exige dans les circonstances de société réellement existantes, avec leur histoire spécifique d'injustice, avec leur distribution particulière du pouvoir et des ressources, et avec leur arrangement institutionnel concret. Alors cette objection échoue elle aussi, mais pour une raison philosophiquement éclairante, c'est-à-dire elle se trompe de niveau d'analyse. Parce que les trois principes, en effet, ne sont pas destinés à être immédiatement applicables à la résolution des dilemmes moraux concrets. Ils servent à comprendre ce que signifie reconstruire les critères qui nous permettent de distinguer l'action morale de l'action non morale. Alors, c'est précisément en suivant les implications de ces conditions, en se demandant ce qui doit être en place pour que les acteurs puissent agir selon des maximes, les trois maximes des Lumières, que nous allons au-delà de la dimension purement formelle, interne de la liberté, et nous sommes conduits vers le domaine du droit et des institutions politiques. Et pour comprendre pourquoi, considérons la manière dont chaque acteur moral, agissant selon sa propre compréhension de ce qui requiert les trois principes, exerce une forme de causalité pratique, de causalité morale dans le monde empirique. Les acteurs se donnent des objectifs, ils agissent et ce faisant, ils affectent inévitablement les objectifs et la liberté d'autrui. Et dans une communauté composée de multiples agents, chacun exerçant indépendamment sa volonté, les conflits sont structurellement inévitables. Non pas parce que les agents seraient malveillants ou même négligents, mais parce que l'empiètement mutuel des volontés indépendantes est une caractéristique inhérente à toute vie sociale. Alors, l'exercice de la liberté d'une personne limite nécessairement la liberté des autres, Et cela signifie que la question, ce n'est pas de savoir si la liberté des agents se contraindra mutuellement, mais si ces contraintes peuvent être rendues légitimes. Si la limitation de la liberté de chacun peut être justifiée à chacun, selon des termes qu'il pourrait accepter en tant que participant à un système partagé de la liberté, plutôt que lui être imposé comme une simple fait de pouvoir ou de force. Alors le concept de droit émerge précisément comme la réponse à ce problème du conflit des libertés. Et j'emploie le terme droit de façon à la fois plus large et plus fondamentale que le concept juridique ordinaire du droit. Le droit est l'ensemble des principes qui déterminent les conditions dans lesquelles les libertés externes des acteurs peuvent coexister. Et il ne s'agit pas d'un supplément ajouté à la liberté morale une fois que le cadre moral est en place. Ce droit, c'est l'expression externe des mêmes engagements normatifs qui constituent la liberté morale. Donc on peut voir ça du point de vue de la liberté interne, et on peut regarder les maximes des Lumières du point de vue de la liberté externe, c'est-à-dire l'exigence des principes universalisables, l'aspiration à un ordre partagé d'autolégislation mutuelle, l'engagement à traiter les personnes comme des fins. Ce qui change, c'est le domaine. Nous passons donc des conditions qui nous permettent de présupposer, de comprendre du point de vue moral qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est la volonté libre, à un monde d'action externe, à un monde de droit. Et alors le principe fondamental du droit dans ce cadre est que la liberté de chacun doit être rendue compatible avec la liberté égale de tous dans une loi universelle. Et ce principe de droit fondamental, de la liberté qui se limite, des libertés qui se limitent, comporte trois dimensions qui correspondent aussi aux trois maximes des Lumières. Au niveau interne, au niveau épistémique, on a les maximes des Lumières. Au niveau de la liberté morale, on a les principes de l'action, de la volonté libre que je viens de vous de présenter. Et niveau du droit, on trouve là aussi des maximes qui nous donnent un ordre politique juste. Alors, retournons aux maximes. La première maxime, penser par soi-même, conduit, de point de vue moral, à la formule de la loi universelle, ça, on a déjà vu. Elle se demande si la maxime de mon action pourrait servir de loi universelle. Et au niveau de la volonté morale, agir selon un principe que je ne serais pas prête à généraliser, revient à traiter ma situation comme un cas spécial. Nous avons déjà vu ça aussi. Mais alors, lorsque nous nous demandons ce que cette formule exige au niveau d'un cadre juridique et politique partagé, lorsque nous nous demandons ce que, non pas ce que l'individu doit faire, mais ce que le système de loi gouvernant une communauté des individus doit protéger et reconnaître, la réponse est la protection politique de la liberté. Donc le droit doit être structuré de manière à protéger la liberté politique de chaque membre de façon compatible avec la liberté des autres, car c'est précisément là que l'universalité de la loi est censée garantir. Un ordre juridique qui restreint la liberté de manière arbitraire, qui applique des normes différentes à des membres différents, sans justification universalisable, échoue au test de la loi universelle au niveau institutionnel, au niveau externe, tout comme un acteur qui agit selon une maxime non universalisable échoue à ce test au niveau individuel. Deuxième maxime de Lumière, pensant en se mettant à la place de tous les autres. Alors là aussi, le corrélat moral, nous l'avons souligné, la formule de l'humanité. Au niveau de la volonté morale individuelle, cette formule nous donne le devoir de ne jamais traiter les personnes simplement comme des moyens. Mais lorsque nous demandons ce que cette formule exige au niveau des institutions qui gouvernent une communauté, la réponse est la suivante, l'égalité. Parce que tous les membres doivent se tenir dans la même relation au droit, parce que tous possèdent la même valeur inconditionnelle. Donc, un ordre institutionnel qui traite certains membres comme ayant moins de statut juridique que d'autres, qui inscrit dans sa structure fondamentale une hiérarchie des personnes, viole la formule de l'humanité au niveau institutionnel, comme le fait de traiter un individu simplement comme un moyen la viole au niveau personnel. L'égalité devant la loi n'est pas une caractéristique contingente d'un ordre juridique juste, elle est l'expression institutionnelle directe de la valeur inconditionnelle des personnes. Troisième maxime, enfin, toujours penser de manière cohérente. Nous avons vu que cette formule, elle nous conduit de point de vue moral au royaume des fins, à une formule qui nous amène à concevoir une communauté dans laquelle chaque personne est simultanément l'auteur des principes moraux et soumise à ces mêmes principes. Alors, au niveau de la volonté morale, cela correspond au royaume des fins, à l'aspiration à une union systématique des êtres humains. Mais lorsque nous nous demandons ce que cette formule exige institutionnellement, la réponse est l'indépendance, c'est-à-dire la justification démocratique des lois. Chaque membre de la communauté politique doit demeurer autodéterminé à l'intérieur du cadre établi par la volonté collective. Donc on a un rapport entre la volonté individuelle et la volonté collective, telle que l'indépendance est la garantie qu'un contrat social n'est pas simplement l'imposition de la volonté des forts aux faibles, mais l'expression d'une autodétermination véritablement collective. Donc, un ordre institutionnel qui réduit certains membres à des purs objets de volonté autrui, qui leur refuse leur participation démocratique à l'autolégislation, viole le royaume des fins au niveau institutionnel. Alors, le triple parallèle, penser par soi-même, penser du point de vue de tous les autres, penser de manière cohérente, nous conduit du point de vue moral à la formule de la loi universelle, à la formule de l'humanité, à l'idée du royaume des fins. Mais lorsqu'il s'agit de l'expression institutionnelle de ces idées, nous parvenons à une conception extrêmement exigeante de la légitimation intersubjective politique. C'est-à-dire, c'est l'idéal d'un ordre institutionnel global fondé sur les principes de l'égalité, de la liberté, de l'égalité et de l'indépendance à l'égard de la volonté d'autrui. Donc, chaque étape découle de la précédente et se demande ce que le principe déjà établi exige lorsqu'il est étendu au domaine suivant. Des conditions de la pensée éclairée, c'est le sujet de mon premier cours, aux conditions de la volonté morale et puis à l'ordre institutionnel censé refléter la liberté interne dans les arrangements externes. C'est cette dérivation qui fait de la théorie du droit quelque chose de plus qu'un droit positif ou d'un arrangement pragmatique visant à préserver la paix entre les intérêts concurrents. Et cela nous donne une structure de ce que j'appellerais la théorie du droit aux trois registres, selon trois registres, le droit privé, la liberté, le droit public, l'égalité, et le droit cosmopolitique, la justification intersubjective d'un ordre moral réfléchi dans un ordre politique global. Chaque registre traite d'un domaine distinct dans lequel le principe de la coexistence des libertés sous une loi universelle doit être appliqué, et chacun engendre un ensemble correspondant d'exigences institutionnelles. Et cela a des implications concrètes. Cela exclut les formes d'autorité qui traitent ceux qui sont soumis comme des instruments au service des fins qu'ils n'ont pas choisies. Cela exige que le cadre juridique dans lequel les individus vivent soit structuré de manière à permettre et non à empêcher leur capacité de autodétermination morale. Et cela requiert que les institutions de l'État soient sensibles à la liberté égale de tous ceux qu'elles gouvernent et non seulement aux intérêts de ceux qui disposent du pouvoir de les façonner. Le droit cosmopolitique, il extend cette même logique aux relations entre les États et au statut des personnes dans l'ordre international. Donc, le problème de la volonté unilatérale qui rend nécessaire le droit public à l'intérieur de l'État réapparaît à un niveau supérieur, c'est-à-dire dans les relations entre les États. Les États, tout comme les individus, exercent une forme de causalité pratique dans un monde qu'ils partagent avec les autres États. Leurs actions portent atteinte à la liberté des autres États et des individus qui s'y trouvent. Et donc, la structure multiniveau qui en résulte, le droit public, le droit privé, le droit public, le droit international et le droit cosmopolitique, n'est donc pas une simple agrégation des domaines distincts. Ce sont systématiquement des niveaux qui sont systématiquement interconnectés de telle sorte qu'une injustice à un niveau se propage aux autres. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas vraiment résoudre pleinement le problème de la liberté individuelle sans résoudre celui de l'État, et on ne peut pas résoudre le problème de la liberté de l'État sans aborder les dimensions internationales et cosmopolitiques des relations entre les États. Et la dimension cosmopolitique n'est pas seulement un supplément optionnel, elle est constitutive de l'ensemble de ce cadre de liberté interne et de liberté externe. Un ordre mondial dans lequel les États puissants peuvent imposer leur volonté à des États plus faibles n'est pas un système de droit cosmopolitique, c'est un système d'asymétrie globale qui viole le principe de la coexistence universelle des libertés au niveau de la communauté internationale. La même logique s'applique au domaine de la vie économique, de participation politique et de la reconnaissance sociale. On verra ça dans les prochains cours. Le point, c'est que si quelque chose se brise au niveau international, par l'exploitation, par la dépendance à la dette, par la distribution asymétrique du pouvoir productif, les effets se font sentir à tous les niveaux. Donc on n'a pas un cadre cohérent de la liberté interne si l'on n'a pas un cadre cohérent de la liberté externe, on n'a pas un cadre cohérent de la liberté individuelle et de l'État si on n'a pas un cadre cohérent de la liberté cosmopolitique. Si les interactions commerciales, alors, sont globalement étendues, mais que les structures de responsabilité politique restent limitées à l'État-nation, l'ordre mondial échoue à un niveau fondamental et sape aussi la liberté morale. Ceci étant, la liberté n'est pas seulement un ensemble de critères moraux et politiques à spécifier du point de vue philosophique, ce que je viens de faire. Nous avons besoin aussi d'un récit historique du développement des institutions économiques et politiques spécifiques et d'une analyse de leur contribution ou de leur obstruction à la réalisation de ce système de liberté interne et externe. Et c'est ici que nous devons poursuivre notre analyse de la liberté. Après avoir expliqué aujourd'hui comment la liberté est liée à la volonté morale et comment les institutions politiques globales sont nécessaires pour la réaliser extérieurement, nous devons faire place à une réflexion philosophique qui engage le problème de la liberté sous un angle historique. Alors, autrement dit, nous avons besoin d'une analyse philosophique des conditions dans lesquelles la liberté se développe dans l'histoire, ou, pour le dire autrement, d'une théorie philosophique du progrès. Et là, je vous laisse, car ce sera le sujet de mon prochain cours. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.